Imaginez-vous seul, coupé du monde, épuisé physiquement et moralement. À qui penseriez-vous pour vous donner la force de vous battre jusqu'au bout ?
J'avais les larmes aux yeux, car je pensais qu'il allait mourir. Il m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, Ada ?» Je ne pouvais tout simplement pas m'empêcher de pleurer, car je savais qu'il ne tiendrait pas jusqu'à ce que le bateau arrive, et qu'alors, je serais toute seule.
Seule, sur une île déserte, perdue dans l'Arctique, entre l'Alaska et la Sibérie. C'est ce qui est arrivé au début du XXe siècle à une héroïne de l'exploration polaire, longtemps restée dans l'ombre, Ada Black Jack. En 1921, cette jeune femme inuite est recrutée par des explorateurs pour les accompagner dans une mystérieuse expédition vers une île isolée dans les mers gelées du Grand Nord. Ada Black Jack a grandi en ville. Elle ne sait ni chasser ni pêcher et a une peur panique des ours polaires. Elle a été embauchée pour cuisiner et coudre des vêtements durant toute l'expédition. Mais l'aventure vire au cauchemar.
De toutes les expéditions auxquelles j'ai participé, celle-ci est la plus désastreuse.
Ada finit par se retrouver seule, loin de tout, cernée par les glaces. Qu'est-il arrivé à ses compagnons et comment va-t-elle réussir à s'en sortir ? C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène au-delà du cercle polaire arctique sur les traces de cette Robinson des glaces qui est parvenue à regagner la civilisation in extremis. Septembre 1921. À l'extrême pointe ouest de l'Alaska, dans la petite ville de Nome, une jeune femme s'arrête devant une cabane délabrée dans une ruelle boueuse. Elle vient consulter la chamane qui habite ici. Celle-ci l'aidera à prendre la bonne décision. Elle est face à l'un des choix les plus importants de sa vie. Le chef de la police de Nome, qui la connaît depuis qu'elle est toute petite, est venu la voir hier.
Ada, j'ai une proposition qui devrait t'intéresser. Quatre explorateurs viennent de débarquer en ville. Ils préparent une expédition dans l'Arctique et veulent embaucher des Inuits pour les accompagner. Ils cherchent des gens pour chasser, poser des pièges, mais aussi pour cuisiner et coudre. Des familles entières ont déjà été approchées et sont intéressées. T'es bonne couturière et tu parles anglais. Ce serait une bonne opportunité pour toi.
L'homme sait que la jeune femme de 23 ans traverse une période difficile depuis qu'elle s'est séparée de son mari, Jack Black Jack, qui la battait. Par manque d'argent, Ada a dû se résoudre à placer Bennett, son fils de 5 ans, malade, dans un établissement de Nome qui accueille les orphelins et les enfants que les parents ne peuvent pas élever. Pour l'instant, les revenus irréguliers qu'Ada tire de ses heures de couture ne lui permettent pas de récupérer son fils. Il lui faut trouver de l'argent et les explorateurs proposent une rémunération mensuelle de $50. Jamais la jeune Inuite n'a gagné une telle somme. Sa mission durerait au minimum un an et peut-être deux. L'argent gagné lui permettrait de sortir Bennett de l'orphelinat et de l'emmener à l'hôpital de Seattle où il serait mieux soigné. Mais pour que ce rêve se réalise, la jeune femme doit accepter de quitter sa maison, sa famille et surtout de partir loin de son fils, longtemps. Et puis Ada ne se sent pas du tout l'âme d'une aventurière. Elle a grandi en ville, n'a jamais appris à chasser ou à pêcher. La seule idée de croiser la route d'un ours polaire la terrorise. Voilà pourquoi, avant de prendre sa décision, elle vient consulter cette chamane.
Tu partiras pour l'île lointaine, mais l'expédition sera dangereuse et n'apportera que la mort.
Les yeux écarquillés, la chamane la met en garde.
Il faudra que tu te méfies des couteaux et du feu.
Cette prophétie peu rassurante ne suffit pas à décourager Ada. L'espoir d'une vie meilleure pour elle et son fils Bennett l'emporte. C'est décidé. Elle prendra part à ce voyage vers le Grand Nord. En ville, tout le monde ne parle plus que de cette expédition. Le nom de l'explorateur qui en est l'organisateur est sur toutes les lèvres. Viljalmur Stefansson, un Canadien d'origine islandaise qui a acquis une renommée internationale. Il a dirigé plusieurs grandes expéditions et offert au Canada quelques îles dont on ignorait l'existence. Aujourd'hui, il vit confortablement de ses livres et de ses conférences. Le public se presse pour venir écouter ce bel homme d'une quarantaine d'années, doté d'un indéniable charisme. Stefansson pérore et captive les foules.
Merci. L'Arctique, tel que nos contemporains le décrivent, n'existe pas.
Devant un public conquis, l'explorateur défend l'idée du Friendly Arctic. L'Arctique accueillant.
Quand on comprendra que les régions polaires sont fertiles et hospitalières, il ne manquera pas d'hommes pour explorer, vite et sans peine, les recoins les plus secrets.
Les affirmations de Stefansson ont de quoi surprendre si l'on songe au fiasco de la grande expédition qu'il a dirigée quelques années plus tôt. Il était parti en 1913 en quête d'un continent inconnu dont il suspectait l'existence au sommet du globe. Son navire, le Carluc, avait été pris dans les glaces. Stefansson avait abandonné bateau et équipage pour regagner avec une poignée d'hommes l'Alaska à pied par la banquise. Le Carluc avait dérivé jusqu'à être broyé par les glaces. 11 des 25 membres de l'expédition avaient trouvé la mort dans cette aventure tragique. Le drame n'avait pas refroidi les ardeurs de Stefansson, qui, après avoir réussi à regagner la civilisation, persistait à minimiser les dangers de l'Arctique.
J'ai toujours considéré le Grand Nord comme un endroit accueillant, aussi ordinaire que le Manitoba, le Montana ou le Dakota.
Pour certains de ses contemporains, Stefansson est un imposteur. Pour d'autres, il est un modèle. Nombre de jeunes aventuriers rêvent d'embarquer avec lui. Alors, quand Stefansson a l'idée d'organiser une nouvelle expédition vers une île perdue de l'Arctique, l'île Wrangel, sur laquelle des rescapés du Carluc s'étaient réfugiés après le naufrage, il n'a aucune difficulté à recruter 4 jeunes volontaires. Ils sont prêts à le suivre n'importe où. Ou plutôt à aller là où il les enverra. Car le célèbre explorateur n'a pas prévu de les accompagner. Il organise, finance et donne les instructions. Ce sont ces 4 hommes envoyés par Stefansson qui viennent de débarquer dans la petite ville de Nome, aux confins de l'Alaska. Pendant qu'ils s'affairent à acheter provisions et matériel pour leur expédition, prenons le temps de faire connaissance. Fred Maurer, 28 ans, réservé mais volontaire. Il fait partie des naufragés du Carluc qui s'étaient réfugiés sur l'île Wrangel. Cette terrible épreuve n'a pas entamé sa passion pour l'Arctique. Au contraire, 7 ans après avoir frôlé la mort sur Wrangel, il veut y retourner comme s'il avait une revanche à prendre sur cette île. À ses côtés, Lorne Knight, 28 ans, un solide gaillard d'1m80 pour 100 kilos. Gouailleur et un peu fruste.
Une bonne chopine n'a jamais fait de mal à personne.
Il a déjà participé à des expéditions dans le Grand Nord et a été formé par Stefansson. Leurs 2 autres coéquipiers sont plus jeunes et sans expérience. Milton Gale, 19 ans, charismatique et plein d'humour. Le profil type du bon camarade. Il n'a jamais voyagé, mais rêve de grandes aventures. Enfin, Alan Crawford, 20 ans. Étudiant en géologie et en paléontologie. Bien qu'il soit très jeune et totalement inexpérimenté, Stefansson l'a nommé chef de cette expédition, car il possède un atout que ses coéquipiers américains n'ont pas. Il est citoyen canadien et sujet britannique. Avant son départ, Stefansson a cru bon de lui faire ce petit rappel par écrit.
N'oubliez jamais ceci. Bien que j'aie confiance en vous, vous avez le commandement parce que vous êtes sujet britannique. Knight et Maurer ont une expérience que vous n'avez pas. Vous ferez preuve de sagesse en suivant leurs conseils.
Pourquoi est-il si important que le chef de cette expédition soit britannique ? Stephenson a demandé aux quatre explorateurs de garder confidentiel l'objectif de ce voyage, au sujet duquel les rumeurs vont bon train. S'agit-il d'une mission d'exploration ou de colonisation de l'île Wrangel ? Interrogé par la presse, Stephenson reste flou, mais il semble considérer que cette terre n'appartient à personne, bien qu'elle soit revendiquée par la Russie. Toutes ces considérations sont bien loin des préoccupations d'Ada Blackjack, qui vient officiellement d'être embauché par le jeune chef d'expédition Alan Crawford. Celui-ci lui a donné un peu d'argent pour qu'elle se procure le matériel de couture dont elle aura besoin.
Avant de quitter Nome, j'ai acheté des tendons, des aiguilles, des dés à coudre et du fil de lin. Monsieur Crawford a affrété le bateau Silver Wave. Le nom du commandant était Jack Hammer.
Le jour du départ, le 9 septembre 1921, lorsqu'Ada se présente devant le Silver Wave, aucune des familles inuites engagées n'est là. Toutes ont renoncé à partir au dernier moment. Les quatre explorateurs considèrent avec embarras cette frêle couturière d'1,50 m, intimidée, qui se tient seule sur le quai face à eux. Comment cette jeune femme pourrait à elle seule assurer tout le travail qu'il y aura à faire sur l'île ? Ada elle-même n'a plus envie d'embarquer dans ces conditions. Mais pour les aventuriers, pas question de repousser le départ. Alors ils promettent à Ada d'embaucher d'autres Inuits lors de l'escale prévue sur la côte sibérienne avant d'arriver sur Wrangel. Les quatre hommes insistent. Ada se laisse convaincre.
La barre de chaud.
La barre de chaud.
Sous un soleil radieux, les voiles gonflées par le vent, le Silver Wave prend le large. Le lendemain, le bateau accoste comme prévu au Cap Dejnev, à l'extrême est de la Sibérie. Les explorateurs ne parviennent à recruter personne. Aucun Inuit n'accepte de suivre ces inconnus dans leur obscur projet. Ada voudrait rentrer, mais il est trop tard. Elle est déjà trop engagée dans cette histoire. Elle n'a plus vraiment le choix. Le bateau met le cap sur Wrangel. L'île ne se laisse pas approcher facilement. La mer grossit, le vent forcit. Bientôt, une tempête se déchaîne sur le petit navire. À la barre, le capitaine Hammer tient bon. Il a accepté de conduire ses hommes et cette femme sur cette île isolée de tout, sans comprendre leur motivation. Pour lui, personne ne se rend de son plein gré sur ce morceau de terre hostile. Après 4 jours de navigation dantesque, les sommets enneigés de Wrangel sont en vue. Le 15 septembre 1921, les explorateurs profitent d'une accalmie pour débarquer avec leurs provisions, leur matériel, leurs 7 chiens de traîneau et un chaton surnommé Vic. Sans tarder, les 4 jeunes gens hissent un drapeau britannique sur l'île et procèdent à un cérémonial bien connu des navigateurs à l'époque. Ils enterrent une bouteille contenant une proclamation sans équivoque.
Je sous-signais Alan Rudyard Crawford, natif du Canada et sujet britannique, ainsi que les hommes dont les noms suivent. Considérant les revendications étrangères intermittentes, avons procédé au lever de drapeaux britanniques et canadiens, suivant les conseils et sur la demande de Wilhelmur Stephenson, sujet britannique, et déclarons l'île, connue sous le nom de Wrangel, juste possession de Sa Majesté George V, roi de Grande-Bretagne.
Le commandant Hammer assiste depuis le pont de son bateau à cette prétendue prise de possession britannique à laquelle lui, capitaine de nationalité américaine, vient de participer à son corps défendant. Ne voulant pas être accusé de complicité dans cette affaire, il s'empresse à son retour de rapporter aux autorités locales ce surprenant lever de l'Union Jack sur Wrangel. La nouvelle va rapidement se répandre et susciter de vives protestations. Tel était donc le projet de Wilhelmur Stephenson. Établir une petite colonie sur Wrangel pour en revendiquer la propriété au nom de la Grande-Bretagne. il enverrait dans un an un navire pour ravitailler et relever tout ou partie de l'équipe en place. Stephenson a pris cette initiative sans en avertir la couronne britannique. Il pense convaincre le gouvernement du Royaume-Uni de le suivre dans cette conquête en le mettant devant le fait accompli. À titre personnel, il espère pouvoir tirer profit de cette île. L'explorateur est persuadé que les grandes lignes aériennes reliant l'Amérique à l'Europe passeront un jour par le nord. Wrangel constituera alors un lieu stratégique pour les escales. Mais Viljalmur Stephenson a-t-il conscience des risques qu'il fait courir à ces quatre hommes et à cette femme pour nourrir ses ambitions personnelles ? Cette île de l'Arctique, sur laquelle lui n'a jamais mis les pieds, se révélera-t-elle aussi accueillante qu'il le prétend ? Sur le rivage morne de l'île Wrangel, Ada Blackjack a du mal à retenir ses larmes. Que fait-elle ici avec ces quatre hommes qu'elle ne connaît pas ? L'île sur laquelle elle vient d'arriver est grande, 140 km de long pour 80 de large, mais elle est totalement inhabitée. Les brumes de l'Arctique dissimulent aux yeux du monde ce paysage désolé de toundra que surplombent au loin d'austères montagnes. La petite expédition a débarqué sur la côte sud de l'île où alternent plages de gravier noir et promontoires rocheux. En ce mois de septembre, le sol est recouvert de mousse et de lichen. Mais bientôt, la glace et la neige recouvriront tout. Crawford, Knight, Gale et Maurer s'activent pour établir le camp. Trois tentes sont dressées. Pas un arbre ne pousse sur cette île, mais le bois flotté déposé par la mer sur le rivage semble une ressource inépuisable.
Nous sommes maintenant occupés à empiler du bois de chauffage et à préparer les quartiers pour l'hiver.
Les sept chiens achetés à Nome n'ont pas l'air très en forme. Une partie des provisions se révèlent avariées, mais rien n'entame l'optimisme des quatre aventuriers.
Les traces de renards semblent prometteuses. Nous devrions donc passer un hiver réussi. Nous avons avec nous une femme esquimaude qui coud des vêtements, et elle s'en sort très bien.
Ada dissimule son désarroi et s'acquitte des tâches qu'on lui confie. Elle coud des capuches au parka, s'occupe de l'intendance tandis que les hommes explorent les alentours. Ils reviennent ravis de leurs excursions. Chaque jour, ils aperçoivent une multitude d'animaux. Chouette harfang, mouette, sterne, ours polaire, phoque, morse, renard. Le gibier ne manque pas. Ada ne partage pas vraiment l'enthousiasme de ses compagnons. Les ours qu'elle voit passer au loin la terrifient. Elle ne sait pas se servir d'un fusil et refuse d'apprendre. Elle a horreur des armes à feu. La jeune citadine n'est décidément pas dans son élément. Fin septembre, les premiers flocons font leur apparition. La banquise commence à se former. Le piège de l'hiver est déjà en train de se refermer sur Wrangel. Ada fond de plus en plus souvent en larmes et se dit trop angoissée pour travailler. Son comportement commence à inquiéter ses coéquipiers. Dans son journal, Lord Knight se montre compréhensif.
Nous la surveillerons et prendrons soin d'elle.
Malgré la bienveillance dont Knight prétend faire preuve, Ada est un peu effrayée par cet homme à l'imposante carrure qui rit très fort et hausse régulièrement le ton.
Il va pas se rentrer tout seul, ce bois.
La jeune femme ne considère pas les quatre explorateurs de la même manière. Maurer se montre froid et distant à son égard. Gale est plus affable et respectueux, contrairement à ses deux aînés. Le jeune homme de 19 ans ne l'appelle jamais la native ou la femme. Il l'appelle par son prénom, se montre attentif et plaisante avec elle. Elle le trouve gentil, mais le considère un peu comme un gamin. En revanche, elle est tombée sous le charme d'Alan Crawford et ne cherche pas à le cacher. Restant le plus possible à ses côtés, lui jetant des regards appuyés, le complimentant sur ses beaux yeux verts. Crawford est un peu gêné, d'autant que ses compagnons ne ratent pas une occasion de se moquer des tentatives d'approche peu discrètes de la jeune femme.
Encore en train de roucouler tous les deux.
Ada n'a que faire de leur raillerie. Elle ne tarde pas à avouer ses sentiments à Crawford. C'est peut-être sa façon à elle de lutter contre le désespoir et l'angoisse. Mais cela ne fonctionne pas. Au contraire, Crawford ne cédant pas à ses avances, elle se sent rejetée. Sa place n'est décidément pas ici. un matin de novembre, alors qu'elle observe Knight aiguiser un long couteau, la mise en garde de la chamane lui revient en mémoire.
Il faudra que tu te méfies des couteaux et du feu. L'expédition sera dangereuse et n'apportera que la mort.
Ada perd pied et panique. Elle s'enfuit du camp. Quand Knight et Crawford s'aperçoivent de sa disparition, ils partent à sa recherche. Ils suivent ses traces dans la neige. En les voyant arriver, Ada hurle et demande qu'on la laisse mourir. Les deux hommes la ramènent de force au camp. Après cet incident, Knight se montre beaucoup moins compréhensif à son égard.
Ça peut paraître divertissant, mais ce n'est pas drôle d'avoir une femelle hurlant, refusant de travailler et piochant dans les provisions. Dieu sait ce qu'elle est capable de s'infliger ou de nous faire subir. Il faut la surveiller sans cesse. C'est pesant.
Knight décide de sévir.
La méthode douce a échoué. Désormais, j'userai de la force.
Un jour, alors qu'Ada refuse obstinément de réparer des bottes, Knight, furieux, la sort de force de la tente et l'attache au mât du drapeau. Ada s'égosille pendant 3 heures dans le froid avant que l'on vienne la détacher. Les jours suivants, elle fugue à plusieurs reprises. Parfois, elle suit les traces d'un renard. Selon les croyances inuites, des esprits déguisés en renards vivent dans des collines creuses. Elle se dit qu'elle serait plus heureuse là-bas, avec eux. Les hommes ne comprennent rien à son comportement. Ils la ramènent sans ménagement en l'attachant sur le traîneau. Knight est excédée par son attitude.
Elle reste assise, mange nos provisions et reçoit $50 par mois pour faire le contraire de ce qu'on lui demande. À mon retour, je serai bon pour l'hôpital psychiatrique.
Ne sachant comment remettre Ada au travail, Knight décide de la priver de repas. Ses compagnons le laissent faire. Ses brimades sont aussi cruelles qu'inefficaces. Ada est dans une profonde détresse psychique. Le manque d'empathie et de psychologie dont font preuve les explorateurs ne l'aide pas à aller mieux. Pas plus que la nuit polaire qui vient de débuter. 2 mois d'obscurité à traverser. Le soleil ne réapparaîtra pas avant le 20 janvier. C'est au fond d'elle-même que la jeune femme va trouver la force de remonter la pente. Un matin, elle demande à Knight ce qu'elle doit faire pour aider.
Des moufles et des chaussettes.
À la surprise générale, la jeune femme se met à l'ouvrage et coud sans s'interrompre jusqu'au soir. À partir de ce jour, elle cuisinera et confectionnera les vêtements pour tout le monde sans protester. Ada Blackjack n'expliquera jamais ce qui s'était passé dans sa tête au moment de ce déclic. Pas plus qu'elle ne racontera comment elle avait vécu les moments difficiles qui l'avaient précédée. La petite communauté apaisée résiste aux assauts de l'hiver. Dehors, le blizzard souffle sans répit. Les températures plongent en dessous des moins 40 degrés. Les 5 hivernants passent des journées entières agglutinés autour du poêle, sous la tente autour de laquelle ils ont construit un igloo. Lorsque le temps s'améliore un peu, les hommes quittent leur tanière et s'enfoncent dans la nuit glacée pour aller relever les pièges. Les renards se font rares. Un jour, Ada, restée seule au camp, entend un grognement sourd. C'est un ours, Nanook, cet animal qui occupe une place à part dans les légendes inuites et qui hante les cauchemars de la jeune femme depuis toujours, se tient là, à quelques mètres de l'entrée de la tente. Que faire ? Ada ne sait pas se servir du fusil, prendre un couteau, enflammer un morceau de bois avec les braises du poêle. La jeune couturière est incapable de faire le moindre mouvement. Elle reste pétrifiée, tétanisée par la peur. Le temps s'arrête. L'ours vient de s'effondrer. C'est Gale, de retour d'excursion, qui a tiré. La petite communauté vient de reconstituer ses réserves de viande pour un bon moment, au prix d'une frayeur qu'Ada ne voudrait plus jamais avoir à revivre. La jeune femme fait maintenant partie intégrante du groupe. Knight lui fait encore un peu peur, elle n'attend plus rien de Crawford, mais elle s'est liée d'amitié avec Gale. Les drôles de poèmes qu'il tape sur sa petite machine à écrire l'amusent.
Si au cours du dîner survient un incident, mieux vaut tourner la tête afin de l'ignorer. S'attarder sur ses faux pas est inconvenant, les invités ne doivent pas les remarquer.
Sous la tente, on rit, on chante, on se raconte des histoires. L'ambiance est chaleureuse, la petite chatte vit qui contribue. Elle est un précieux réconfort pour tout le monde. L'hiver passe, il n'aura fait que 2 victimes. 2 chiens sur les 7 n'ont pas survécu. En mai, la neige fond, laissant réapparaître la toundra noire de la lugubre Ilvrangel. Ada a le mal du pays, mais elle garde le moral en se disant que le plus dur est derrière elle. Dans quelques mois, le bateau de ravitaillement envoyé par Stephenson passera et elle pourra repartir. Ses compagnons pensent rester encore au moins 1 an sur l'île. Ils sont éprouvés, certes, mais les vivres frais qu'apportera le navire leur donneront le regain d'énergie nécessaire pour poursuivre l'aventure. Mais l'été avance et la glace reste très présente autour de l'île. C'est à se demander si un bateau pourrait se frayer un passage.
Nous nous attendions à un bateau tous les jours cet été-là, car parfois l'océan se dégage pour permettre au bateau d'entrer. La glace sort, mais revient.
Chaque fois que la mer s'ouvre un peu, les 5 compagnons reprennent confiance. Mais l'horizon reste désespérément vide. Que se passe-t-il? Pourquoi la relève n'arrive pas comme l'avait promis Stephenson? À des milliers de kilomètres de là, l'explorateur ambitieux peine à réunir les fonds pour affréter un bateau. Son initiative n'a pas reçu l'accueil qu'il espérait, comme en témoigne cette dépêche de Londres datée de mars 1922.
L'annonce du New York Times, selon laquelle Vivian Muir Stephenson aurait procédé à un lever de drapeau sur l'île Wrangel, a pris au dépourvu les autorités britanniques. Le gouvernement de Sa Majesté est étranger à cette expédition. Une enquête auprès des services compétents témoigne de leur désintérêt pour Wrangel.
Le Canada ne soutient pas non plus son ressortissant dans cette affaire. Malgré ses déconvenues, mi-septembre, Stephenson parvient enfin à envoyer un bateau de ravitaillement vers Wrangel. Mais jamais depuis 25 ans, il n'y avait eu autant de glace autour de l'île à cette période de l'année. Le bateau ne parvient pas à approcher. Il doit faire demi-tour. En réponse aux lettres inquiètes des familles des jeunes explorateurs, dont on est sans nouvelles depuis maintenant 1 an, Stephenson ne se départit pas de son optimisme légendaire.
Nous n'avons aucune raison de croire qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour faire face à la situation. Considérez seulement que les hommes sont coupés du monde pendant 1 an. Ils sont en sécurité sur leur île, comme Robinson Crusoe l'était sur la sienne, peut-être même davantage, parce qu'il n'y a pas de cannibales sur Wrangel. Ils ont autant de chances d'être en bonne santé dans 1 an que vous au Texas ou moi à New York.
Sur Wrangel, la situation est loin d'être aussi idyllique. Les visages sont devenus plus anguleux, les corps sont amaigris, rongés par la fatigue et le froid. Knight dit souffrir de rhumatisme persistant. À mesure que l'hiver avance, l'inquiétude s'installe. Les provisions débarquées il y a 1 an sont quasiment épuisées et les animaux se font plus rares que l'année précédente.
Au moment de Noël, nous avons mangé de la viande de phoque salée, du pain dur et du thé pour notre dîner. Je me suis demandé où je serais si je vivais jusqu'à Noël prochain.
La pénurie guette. Les 5 compagnons craignent que ce 2e hivernage leur soit fatal. Alors Knight et Crawford décident d'aller chercher de l'aide. Ils vont gagner la Sibérie à pied par la banquise pour ensuite rejoindre la petite ville de Nome. Début janvier 1923, soit près de 15 mois après être arrivés sur Wrangel, Knight et Crawford chargent le traîneau de provisions pour 30 jours. Accompagnés des 5 chiens, ils s'enfoncent dans la nuit polaire sous le regard inquiet de Morer, Gale et Ada. Leur expédition tourne rapidement au désastre. Un enchevêtrement de crêtes de glace infranchissables les contraint à faire d'innombrables détours. Knight sans ses forces l'abandonner. Ses jambes le font souffrir. Il a longtemps nié l'évidence du mal qui le ronge depuis des mois. Mais cette fois, il n'y a plus de doute. Knight a le scorbut. Il a surestimé ses forces. Ce n'est pas lui qui aurait dû accompagner Crawford. Les deux hommes n'ont pas le choix. Ils font demi-tour.
De toutes les expéditions auxquelles j'ai participé, celle-ci est la plus désastreuse. Nous n'avons vraiment pas de chance. Ou s'agirait-il d'incompétence ?
13 jours après être partis, Knight et Crawford sont de retour au camp. Ils sont dans un état épouvantable, le visage noirci et gonflé par le froid, des engelures aux pieds. Knight boite, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais Crawford récupère rapidement et pour lui, aller chercher de l'aide reste une urgence. Il convainc Gale et Maurer de repartir avec lui.
Knight était très malade et faible. Les trois autres garçons ont parlé de faire le même voyage en Sibérie et Knight a dit que ce serait mieux parce que les trois garçons pourraient construire une cabane de neige plus facilement la nuit que deux garçons.
Gale demande à Ada de prendre soin de Knight pour qu'il guérisse et il lui promet de revenir les chercher.
Avec un bateau ? Et s'il ne pouvait pas y arriver avec un bateau, il viendrait avec un traîneau de chien l'hiver prochain.
Fin janvier 1923, Crawford, Maurer et Gale se mettent en route, laissant Knight et Ada seuls.
Je me demande ce que les gens diront de mon séjour ici, seul, avec cette bonne femme. Elle rêve d'avoir un blanc. Aucune chance avec moi.
Ada n'est pas plus ravie de cette situation. Knight l'effraie toujours un peu. Un huis clos difficile s'annonce entre la jeune Inuit et l'explorateur affaibli par la maladie. Début février, alors que le vent redouble, Ada découvre à quelques mètres de la tente Knight gisant dans la neige. Elle court jusqu'à lui. S'il était mort, elle se retrouverait toute seule au cœur de l'hiver sur cette île déserte perdue dans l'Arctique. Mais Knight respire encore. Il ouvre les yeux.
Tout va bien, Ada. J'ai fait un léger malaise.
Ada aide l'explorateur à regagner son lit. Son état empire, le scorbut le ronge. Pour guérir de cette maladie due au manque de vitamine C, Knight réclame de la viande fraîche. Ada part poser des pièges, mais elle n'a jamais appris à le faire.
Quand j'étais dehors, j'avais peur de rencontrer un ours polaire. De temps en temps, je me retournais et regardais autour de moi pour voir s'il y en avait un. S'il y en avait eu un, je me serais évanouie. Car je n'avais qu'un couteau à neige avec moi. Je ne portais jamais de fusil lorsque j'étais sur le terrain de piégeage. Pendant environ un mois, je n'ai jamais attrapé de renard.
Knight se lamente en voyant rentrer Bredouille, la jeune femme.
J'ai faim. Mais je n'en peux plus de manger des biscuits et de la graisse de phoque.
Ada persévère. Elle comprend comment mieux positionner les pièges. Il faut les enfouir moins profondément dans la neige. Au bout de plusieurs semaines, elle attrape enfin son premier renard.
C'était le 22 février 1923. Après cela, j'en ai attrapé d'autres. En mars, j'en ai attrapé pas mal. Un jour, j'en ai attrapé trois.
Ada met au point une nouvelle technique de chasse. Les renards étant d'un naturel très curieux, elle remarque qu'elle peut s'approcher lentement et les assommer d'un coup de bâton. Malgré ses nouveaux apports de viande fraîche, l'état de Knight s'aggrave. Sa maladie le rend de plus en plus irascible.
En matière de conversation, cette femme est nulle.
Ada ne doit pas être loin de penser la même chose de son coéquipier. Elle préfère se confier à son journal.
S'il doit m'arriver quelque chose et si l'on apprend que je suis morte, je voudrais, s'il vous plaît, que vous donniez à Bennett tout ce que je possède. Combien j'aimerais être parmi les miens.
Penser à son fils Bennett aide la jeune femme à tenir. Tenir face aux conditions extrêmes de l'Arctique, mais aussi face aux horreurs que Knight lui assène depuis son lit, qu'il n'a plus la force de quitter.
Ton mari Blackjack devait être un homme bon. Il a eu raison de te traiter méchamment. Tu méritais qu'il te quitte. Tu t'occupes mal de moi. Pas étonnant que tes deux premiers enfants soient morts. Tu t'es sûrement aussi mal occupé d'eux que de moi.
La maladie fait délirer Knight et met les nerfs d'Ada à rude épreuve.
Il ne se demande pas combien c'est dur pour moi de prendre la place de quatre hommes, de m'occuper du bois, de chercher de quoi le nourrir, de faire son lit et de nettoyer sa merde.
Malgré le ressentiment, pas question pour Ada de laisser tomber Knight. Elle redoute par-dessus tout de se retrouver seule sur cette île déserte. Elle a besoin de partager cet enfer avec un être humain, aussi imbuvable soit-il. La survie de Knight dépend d'Ada, mais l'inverse est presque aussi vrai. Alors, la jeune femme va se battre pour deux. Elle surmonte sa peur des armes à feu et apprend à se servir du fusil. Patiemment, elle s'entraîne à viser. Elle construit un oumiak, un petit canoë en peau de bête. Elle s'aventure de plus en plus loin. Ses tirs manquent encore de précision et les renards ont déserté les pièges.
Vers avril, les renards se sont fait très rares et je n'ai plus pu les piéger du tout.
Mais Ada ne rentre pas les mains vides. Elle rapporte ce qu'elle trouve. Un jour des racines, l'autre des œufs.
Knight a mangé ses œufs parce qu'il ne pouvait pas manger de viande à cause de sa gorge si douloureuse. Il était si faible que j'ai dû lui tenir la tête pour lui donner à boire.
Un matin, elle parvient enfin à abattre un oiseau en plein vol. Elle rentre au camp, la mine réjouie et fière.
Je l'ai ramené à la maison et j'en ai fait du bouillon pour Knight, car il pouvait manger très peu.
Les semaines passent et Knight finit par être impressionné par la ténacité et la débrouillardise de la jeune femme. Il l'encourage, lui donne des conseils pour la chasse aux phoques. Mais malgré les soins que lui prodigue Ada, Knight va de plus en plus mal. La jeune femme se désole devant le corps chétif et sanguinolent de cet homme qui avait la carrure d'un ours en arrivant un an et demi plus tôt sur l'île.
Oh mon Dieu, ses jambes sont squelettiques. Il est blanc comme du papier.
Knight va mourir, il l'a compris, Ada aussi. Cette idée les terrifie tous les deux. Cela fait maintenant 6 mois qu'ils partagent leur solitude. Les débuts ont été difficiles, mais l'adversité a fini par les rapprocher. Knight tend sa Bible à Ada après y avoir griffonné ces quelques mots.
Offert à Ada Blackjack par Lord Knight sur l'île Wrangel, 1923.
Un soir de juin, penchée au-dessus de Knight, Ada éclate en sanglots.
Il m'a regardée et m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, Ada ?» Et je lui ai dit que je pensais qu'il allait me quitter. Je ne pouvais tout simplement pas m'empêcher de pleurer, car je savais qu'il ne tiendrait pas jusqu'à ce que le bateau arrive. Et qu'alors, je serais toute seule. Il m'a dit d'essayer de tenir jusqu'à l'arrivée du bateau.
T'as fait de ton mieux. C'est pas ta faute. Merci, Ada, de tout ce que t'as fait pour moi. Sois forte et continue de te battre.
Le lendemain, au réveil, Ada s'approche du lit de Knight et s'aperçoit qu'il ne respire plus. Les yeux embués de larmes, elle s'assoit devant la machine à écrire de Gale et tape d'une main tremblante.
Île Wrangel, 22 juin 1923. Monsieur Knight est mort le 22 juin. Je ne sais à quelle heure. Je rédige cette note pour en informer Monsieur Stephenson. Écrit par Madame Ada Blackjack.
Ada serre contre elle la petite chatte Vic, le dernier être vivant auquel elle peut confier sa détresse. Y a-t-il encore une personne sur Terre qui se soucie de ce qui lui arrive? Que sont devenus Gale, Crawford et Maurer? Pourquoi aucun bateau n'est venu depuis la fin de l'hiver? Pendant qu'Ada désespère, l'île Wrangel fait l'objet d'âpres discussions dans les cabinets ministériels. L'expédition initiée par Stephenson suscite des tensions diplomatiques entre la Russie et la Grande-Bretagne.
Le gouvernement fédéral de Russie se voit dans l'obligation de notifier au gouvernement britannique qu'il considère ce lever de drapeau britannique en terre de Wrangel comme une violation de sa souveraineté.
Les Russes parlent même d'envoyer un bateau sur Wrangel pour capturer les explorateurs et reprendre possession de leur île. Les Anglais rétorquent que la capture d'Alan Crawford et de ses coéquipiers serait considérée comme un acte de guerre. Stephenson est dépassé par les événements. Les États-Unis, de leur côté, estiment utile de préciser que pour eux, l'île est dépourvue de tout intérêt. Un avis que partage Ada Blackjack. La jeune Inuit se fiche d'ailleurs pas mal de savoir à qui appartient l'île dont elle est prisonnière depuis plus de 20 mois. Elle voudrait simplement la quitter. Chaque jour, elle se bat pour sa survie. Elle a pris l'habitude, avant de partir chasser, de consigner par écrit ses faits et gestes au cas où un bateau passerait en son absence. C'est aussi pour elle une manière de maintenir un semblant de conversation. Ses séances d'écriture quotidienne la réconfortent.
24 juin, je vais de l'autre côté du port pour chasser le canard. 25 juin, je suis allée au même endroit qu'hier et attraper 7 éders. 26 juin, je vais marcher jusqu'à la petite île. J'ai vu 2 ours se diriger vers le rivage, loin à l'ouest du camp. Et s'ils venaient par ici, je ne saurais pas quoi faire. Oh, on verra bien.
Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'affaire dans sa tente à nettoyer un phoque qu'elle vient d'abattre, Ada entend une respiration haletante à l'extérieur. Un chien, un traîneau, les secours enfin. La jeune femme se précipite dehors. Son cœur s'arrête net. Devant elle, à moins de 5 mètres, 2 ours. Un adulte et un jeune. Ada attrape son fusil. Elle sait que si elle tire sur eux et ne parvient qu'à les blesser, ils se jetteront sur elle.
Je n'ai pas pris de risque. J'avais peur de me faire dévorer. J'ai tiré au-dessus de leur tête et ils ont couru un peu, se sont retournés et ont regardé comme s'ils allaient venir. Alors je leur ai tiré 5 autres coups de feu et ils se sont enfuis pour de bon. Dieu merci.
Chaque jour, Ada prie et remercie Dieu d'être encore en vie. Elle souligne les passages qui la touchent dans la Bible que lui a légué Knight. Pensez à son fils Bennett, l'aide aussi à tenir. Elle coud pour lui des pantoufles ornées de perles.
Je ne crois pas que je m'en serais sortie si je n'avais pensé à mon petit garçon resté à la maison. Je devais vivre pour lui.
Ada se prépare à passer son 3e hiver sur Wrangell. Elle recoue sa tente, stocke du bois, reprise ses vêtements. Fin août, par une matinée brumeuse, alors qu'elle prépare son petit déjeuner composé de thé, d'huile de phoque et de viande de canard séchée, la jeune femme entend un bruit au loin.
J'ai d'abord pensé que c'était un canard ou quelque chose du genre.
Mais le son est étrangement régulier. Il se rapproche. Intriguée, elle sort, pointe ses jumelles vers la mer, mais l'épaisse brume qui enveloppe l'île lui masque l'horizon. Soudain, le brouillard se déchire, laissant entrevoir le mât d'un navire fantomatique. C'est sa corne de brume qui retentissait dans le lointain. Ada se précipite sur la plage. Elle hurle en agitant les bras de toutes ses forces. Un petit canot approche. Arrivé à sa hauteur, un homme lui tend la main. Il paraît surpris. Comment ne pas l'être devant cette femme au visage abîmé, vêtue de fourrure de la tête aux pieds, seule, au milieu de nulle part.
Hello.
Le regard d'Ada se pose sur chacun des occupants de la chaloupe.
Où sont Crawford, Gale et Maurer? Pourquoi Gale n'est pas avec vous?
Gale lui avait promis de revenir la chercher. Décontenancé, l'inconnu explique qu'il est justement à la recherche des 4 explorateurs dont on est sans nouvelles depuis presque 2 ans. Ada sent monter les larmes.
Il n'y a personne d'autre que moi. Je suis seule ici. Knight est mort. Je veux rentrer chez ma mère. Allez-vous me ramener un homme?
Ok.
Ada s'évanouit. Son sauveur se nomme Harold Noyce. Viljalmur Stephenson a convaincu ce jeune aventurier de se rendre sur l'île Wrangell pour récupérer son équipe d'explorateurs qu'il imaginait en bonne forme. Après le sauvetage d'Ada Blackjack, Alan Crawford, Milton Gale et Fred Maurer sont portés disparus. On ne retrouvera jamais leur corps. Le dénouement tragique de cette expédition fait la une des journaux. Le sauveur d'Ada, Harold Noyce, y voit une occasion de s'enrichir et de se faire connaître. Pendant plusieurs années, il conserve des pages arrachées au journal de Knight, refusant d'en révéler le contenu pour attiser la curiosité de la presse et du public. Il monte en épingle les premières semaines difficiles qu'Ada a vécues sur l'île, fait courir des rumeurs désobligeantes sur cette jeune femme restée seule avec 4 hommes. Il finira par reconnaître ses mensonges, mais avant cela, ses allégations auront eu le temps de causer du tort à Ada. Dès son retour dans sa petite ville de Nome, la jeune femme vit mal les accusations injustifiées dont elle est la cible. Elle fuit les journalistes, voudrait qu'on la laisse tranquille avec son fils Bennett, dont elle peut enfin s'occuper. Wilhjalmur Stefansson parviendra à minimiser ses responsabilités dans cette affaire et trouvera même le moyen de faire de cette tragédie un succès d'édition, sans remettre en cause sa théorie de l'Arctique accueillant.
Je sais que le froid ou la faim n'ont pu jouer de rôle fondamental dans cette affaire.
Ada Blackjack reste à l'écart et ne prend pas le risque de contredire publiquement un homme de son envergure médiatique. La seule véritable héroïne de cette histoire restera dans l'ombre jusqu'à la fin de sa vie. Ada Blackjack est morte en 1983, à l'âge de 85 ans, dans le dénuement, sans jamais avoir reçu les honneurs qu'elle méritait. In Extremis, histoire de survie, est un podcast original de France Inter.